magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Voilà, comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC. Nous avons pour invité Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux. En RDC, la majeure partie de Congolais vivent dans des conditions difficiles. Parmi ces Congolais, se comptent de nombreuses personnes vulnérables. La plupart d'entre elles vivent dans une grande précarité. Pas de logement décent, pas d'accès aux soins de santé, pas de moyens pour se nourrir. Et pourtant, avec de la volonté politique, un bon plan stratégique, il y a moyen d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des personnes vulnérables en RDC. Nous allons en parler, je le disais, avec notre invitée, Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux. Je rappelle le numéro de contact. Si vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à composer les 0-81-890-63-94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net. Alors, Madame Alice Mirimo, avant de parler de l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on attend par une personne vulnérable.
Une personne vulnérable, c'est toute personne qui est dans un dénuement total. Donc, oui. il ne sait pas se prendre en charge de lui-même. Il est dépourvu de revenus pour sa survie ou pour son accès aux services sociaux de base. Et vous savez, les services sociaux de base, il y a la santé, l'éducation, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est infrastructure sociale comme des hôpitaux et tout. Et donc beaucoup de nos compatriotes sont encore dans cette situation. Vous savez, il y a quelque chose qui rend triste souvent.
Oui.
Quand quelqu'un tombe malade ou quand quelqu'un meurt, c'est toute la communauté qui doit se mobiliser. En principe, ailleurs, c'est déjà résolu. Il y a des assurances, il y a des mutuelles qui s'en occupent. Et donc, les questions de revenus touche une bonne partie de notre population. Et j'ai toujours dit que dans notre pays, la pyramide est renversée. On a plus de vulnérables que de personnes en âge actif qui sont dans les circuits de travail, que ce soit des fonctionnaires de l'État comme ceux qui sont dans les secteurs privés. En tout cas, quand on voit les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, je pense que jusque-là, on n'a pas atteint 10% des personnes en âge actif qui ont des revenus et qui travaillent. Et même pour ceux qui travaillent, il y a des questions de salaire aujourd'hui. Il y a des questions de salaire qui ne répondent pas, qui ne nouent pas les deux bouts de mois. Donc il y a un problème aussi, la politique salariale qui n'est pas clairement définie dans notre pays. Et ça renforce la vulnérabilité même au niveau de ceux qui travaillent. Et donc c'est une question cruciale qui devait faire l'objet d'un débat public même dans notre pays. Et même une question de préoccupation centrale. Et là, je dois d'abord remercier le chef de l'État aujourd'hui, oui. Son Excellence Félix Tshisekedi, qui, moi j'avais suivi attentivement son discours d'investiture, a pris un engagement au plus haut niveau de s'occuper en priorité des questions du social. Et vous savez, il y a ce slogan aujourd'hui qui fait partie maintenant de son action de tout le jour, les peuples d'abord.
Exactement.
Et quand on parle de peuples d'abord, ça signifie en réalité la lutte permanente contre la vulnérabilité pour que cette masse laborieuse que nous avons de notre population, aujourd'hui avec l'enrôlement qui a été fait par la CENI, nous savons au moins qu'il y a plus de 40 millions de Congolais qui sont en âge actif. Et donc, tous ces 40 millions, ce sont des personnes importantes pour nous qui doivent contribuer au développement de ce pays. Et donc, il y a question de s'occuper du relèvement social.
Donc, vous estimez, madame, qu'avec de la volonté politique et un bon plan stratégique, il y a moyen d'améliorer tant soit peu les conditions de personnes vulnérables en RDC.
Effectivement. Nous, cette volonté politique nous a mis tout de suite en action. Au niveau du Fonds national de promotion des services sociaux, vous le savez bien, il y a un plan stratégique qui a été adopté déjà depuis 2012 par le gouvernement et qui reste d'actualité parce que ce plan stratégique a en annexe 81 projets sociaux et humanitaires qui visent cinq axes clés de relèvement de notre population. D'abord, la redynamisation du Fonds national lui-même. Il y a une grande réforme au niveau de cette entreprise qui a existé, comme vous le savez, depuis l'époque coloniale et qui a survécu durant tous les régimes qui se sont passés dans ce pays. Et l'autre axe, c'est la prévention de la vulnérabilité. Il y a beaucoup de projets sur cet axe, la protection de vulnérables, la promotion des vulnérables et la mobilisation de fonds. Cette entreprise, à l'époque, s'occupait plus de l'assistance sociale, plus de questions de distribution de biens et consorts. Mais avec cette réforme, le gouvernement a donné à cette entreprise une dimension de servir de banque sociale à travers sa Caisse de solidarité nationale. La Caisse de solidarité nationale a été mise dans ce fonds pour donner trois résultats importants dont je vais parler avec des projets clairs attachés à ça.
Oui.
D'abord, le relèvement social du groupe vulnérable et des personnes nécessiteuses. La cible a été élargie aux personnes nécessiteuses parce qu'en fait, on peut ne pas être vulnérable, mais on est quand même démuni. On est pauvre, extrêmement pauvre. Et en parlant des vulnérables, il y a surtout les cas des personnes handicapées. Vous voyez les aveugles qui sillonnent par-ci par-là, la plupart sont dans la mendicité. Il y a les vieillards, les enfants de rue. Il y a toutes ces personnes privées de leur vie. Et par rapport au relèvement social, nous devons arriver à garantir, mobiliser les ressources pour garantir l'accès de nos populations aux services sociaux de base. Quand je parle, par exemple, de la santé, la santé est très capitale. Parce que même si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras pas venir aujourd'hui animer l'émission. L'enfant ne peut pas aller à l'école. Donc, pour nous, c'est le service au centre même de l'action. Et je dois vous dire que sur ce point, nous sommes dans un partenariat très important avec Projet Cure. L'ONG Projet Cure, c'est une ONG américaine qui nous fournit des équipements médicaux et orthopédiques gratuitement. Le fonds paye juste le transport. Et j'ai la joie de vous dire que dans très peu de jours, nous allons livrer le deuxième conteneur à l'hôpital sanatorium de Selembao. Et donc, nous sommes très penchés sur ce focus-là. Et tous les partenaires qui sont dans ce secteur sont les bienvenus. Et donc, je reviens à cela pour dire le relèvement social va jusqu'à mettre en place un mécanisme de redistribution équitable des richesses nationales à travers cette Caisse de solidarité nationale. Et cela est dans notre décret.
Mais voilà, madame,
à travers le deuxième point.
Oui, avant de parler du deuxième point, madame, vous avez parlé de ce plan stratégique qui a été mis en place depuis 2012 avec 81 projets sociaux. Mais dites-nous, 2012, on est en 2019. Est-ce qu'il y a des projets qui ont marché en dehors de ceux que vous venez de citer?
Chaque année, nous traduisons les priorités dans des plans opérationnels.
Oui.
Cette année, nous avons fait notre plan opérationnel pour 2019. Et chaque fois, nous le mettons à jour selon l'évolution des projets.
Oui.
Nous avons beaucoup... Je peux vous dire qu'à ce stade ici, j'ai au moins 18 études de faisabilité déjà disponibles par rapport à chaque axe. Et parmi ces projets qui sont en train d'être réalisés, il y a ce projet en partenariat avec cet ONG Projet Cure, c'est pour organiser l'accès de nos populations aux services de santé de proximité.
Oui.
Nous le faisons avec le ministère de la Santé. Nous sommes aussi, j'ai l'occasion de vous dire aussi que nous avons tissé un partenariat stratégique avec la Banque africaine de développement qui a trouvé dans notre entreprise une interface stratégique pour mobiliser les ressources et gérer les ressources sociales pour que la population soit relevée. Et là, il y a un projet important que nous allons bientôt commencer parce que la BAD l'a annoncé d'ailleurs auprès du chef de l'État, le projet pour récupérer les enfants des mines de cobalt à Kolwezi et à Lubumbashi. Nous allons commencer la mise en œuvre de ce projet avant la fin de cette année. Donc, je crois même vers juillet, ça va commencer parce que le conseil d'administration de la BAD l'a déjà approuvé. Nous avons aussi des projets par rapport aux personnes handicapées. Et là, vous savez qu'il y a un plan national pour la promotion et la protection de personnes handicapées. Et sur ça, d'ailleurs, il y a des avancées très significatives parce que nous sommes en train de travailler avec certaines associations de personnes handicapées pour organiser la mise à disposition de fonds par rapport à leurs projets de relèvement économique.
Mais sur le terrain, madame, vous pensez que c'est palpable? On sait voir toutes ces avancées sur le terrain.
C'est palpable parce qu'il y a aussi la redynamisation de nos bureaux provinciaux.
Oui.
Maintenant, le fonds est en train de faire sa visibilité au niveau des provinces. Les projets prioritaires que nous avons et que nous avons d'ailleurs exprimés dans nos propositions des actions de 100 jours, parce que quand le chef de l'État a présenté sa volonté politique pour s'occuper en priorité du social du Congolais, nous, au niveau du Fonds national de promotion des services sociaux, en tant que la seule entreprise de l'État qui a la mission d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement, nous avons préparé et envoyé même au chef de l'État la feuille de route de 100 jours, c'est-à-dire nous sommes partis de son discours d'investiture et nous avons trié dans notre plan opérationnel, évidemment dans notre plan stratégique, des projets qui sont en accord ou en concordance avec ses priorités sociales. Et nous sommes déjà en contact avec ces services. Nous avons déjà des assurances que bientôt ces projets vont commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a en priorité? En priorité, c'est l'élaboration, appuyer toutes les provinces à élaborer les plans socio-provinciaux. Ces plans socio-provinciaux, ce sont des tableaux de bord pour les actions sociales à mener. Vous savez, le fonds n'a pas la prétention de s'occuper seul de l'action sociale. Le fonds national sait que dans ce pays, il y a un des bailleurs de fonds et les sociétés dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises qui s'occupent du social. Mais il manque le tableau de bord. Il manque un mécanisme de coordination pour capitaliser toutes ces actions. Et donc, pour nous, nous estimons que le plan social provincial, c'est un outil stratégique pour capitaliser toutes les opportunités d'intervention dans le domaine social.
Alors, ce plan social... Plan social provincial dans un état du lieu de tous les besoins au niveau d'une province.
Vous avez vite compris. Oui. C'est pratiquement une cartographie de tous les besoins sociaux de base par axe stratégique. Oui. Et les axes dans les provinces, nous les connaissons. C'est la santé, l'éducation, les infrastructures sociales et communautaires, les hôpitaux, les marchés, pourquoi pas. Alors, la stratégie, c'est d'avoir un tableau de bord de la situation de la province par rapport au chef-lieu et à tous les territoires, même jusqu'aux chefferies. Et cette cartographie doit être chiffrée de manière que dès que les fonds sociaux sont captés, nous n'avons plus à nous gratter la tête. Nous savons déjà ce que nous sommes en train d'aller faire par rapport à notre population. Et à ce projet est couplé un autre projet, très stratégique aussi, de mettre en place les comités locaux de relèvement social. Ces projets, en fait, visent à aller vers l'instauration de la justice sociale en impliquant directement la population. Parce que la population va travailler directement avec les entités à la base. Si vous lisez bien notre constitution, ce sont les entités territoriales à la base qui gèrent la population au quotidien. Ces entités, c'est la commune, le quartier, l'avenue, les villages, la chefferie. Ces entités sont loin de la population. Et voilà pourquoi tout le monde vient demander au chef de l'État d'acheter les cercueils pour enterrer son enfant. Non, le chef de l'État, il est hautement placé, il a ses représentants jusque dans nos chefferies. Et ce projet vise à renforcer ces entités pour qu'ils soient capables de s'occuper de la population et à organiser la population de manière à avoir un œil vigilant sur tous les projets sociaux qui doivent s'appliquer dans leur province. Nous avons aussi donc l'autre défi, c'est par rapport à l'élimination progressive des inégalités sociales. Et c'est là où je souligne la participation de la population. Nous avons observé que, beaucoup de gens ont tourné le dos carrément parce qu'ils disent, on a trop demandé, on a trop revendiqué, rien n'est venu. Oui. Mais moi, je dis toujours, il faut pas perdre courage. Nous devons regarder en face nos dirigeants et dire clairement qu'est-ce dont nous avons besoin. Déjà, il y a des initiatives dans nos quartiers. Quand quelqu'un meurt, c'est tout le monde qui se mobilise avec un cahier pour qu'on achète au moins les cercueils ou qu'on aille faire les obsèques. Quand il y a le problème de courant, c'est tout le monde qui se mobilise pour aller voir le transfo. Mais ça doit être organisé et suivi. Et le Fonds national est là pour servir d'interface, pour faciliter tout cela. Et donc, vous voyez que par rapport à toutes ces initiatives, actuellement, par exemple, nous sommes dans un processus de formulation d'un projet pour l'emploi des jeunes avec la Banque africaine de développement et le BIT. Oui. Pourquoi? Parce que la jeunesse est la couche sociale stratégique pour ce pays. Sinon, il y aura rupture un jour. Vous vous rendez compte? C'est tout le monde qui veut être député, non? C'est tout le monde qui veut être ministre. Mais est-ce que nous pensons à qui veut le devenir? En réalité, c'est cette jeunesse, non? Mais cette jeunesse doit être encadrée, doit être amenée à assumer un jour de grandes responsabilités. Pour nous, c'est parmi des projets prioritaires, surtout que le chef de l'État en a considéré comme la plus grande priorité de cette année.
Et si on veut devenir ministre, il faut le devenir pour être au service de la population.
Effectivement, voilà, ça c'est bien clair. Ça revienne dans l'amélioration de nos conditions de vie d'un grand nombre.
Voilà. Madame, alors vous avez parlé, ça c'est très important, selon les axes, selon les axes dont vous avez parlé, vous avez cité le plan social provincial. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait de manière assez rapidement, vous puissiez avoir déjà ces plans au niveau des provinces?
Nous avons au moins déjà notre étude de faisabilité disponible. Et comme je vous ai dit tantôt que je suis déjà en contact avec les services de la présidente de la République, Nous pensons qu'il est important qu'il y ait quand même un lancement officiel, même soit par le chef de l'État ou par son délégué, pour que psychologiquement la population soit rassurée que dans très peu de jours, nous commençons d'abord à planifier ensemble. C'est après ce lancement officiel que nous avons prévu de nous déployer dans les provinces et j'aimerais souligner que c'est une action transversale. Ça va impliquer les ministères du plan, les ministères des affaires sociales, les ministères de la santé. Tous les ministères concernés vont être avec nous. Parce que là, je dois préciser que le Fonds national, c'est une interface pour l'impulsion du social qui est fait déjà par d'autres services, d'autres ministères et même la société civile.
Madame Alice Mirimo, nous allons poursuivre avec vous. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Jérémy Mwamba qui nous appelle de Lubumbashi, Glody Bwanganga qui est à Bandundouville et Marcel Boto qui est à Kananga. Nous rappelons si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC avec Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer les 081 890 63 94.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Capi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Jérémy Mwamba nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à notre invité avec vous. Nous saluons à juste valeur la pertinence qu'est rêvée cette thématique. Vraiment, c'est vraiment important qu'on puisse en parler aujourd'hui. À mon humble avis, je pense que un État qui se veut vraiment organisé et avec ses institutions vraiment fortement mises en place et établies doit mettre sur pied, Monsieur Marcel, une politique adéquate dans les différents secteurs de toutes les couches sociales en RDC Congo et surtout avec une note particulière sur les personnes frappées vraiment par la vulnérabilité parce que nous en avons bien dans notre pays et je pense que ces gens ça constitue presque une catégorie qui ne se retrouve pas sur le plan social.
Oui, Jérémy. Alors Jérémy, quelle est votre question? Quelle est votre question, Madame Alice? Votre question, oui.
Oui, je pense que j'en arrive, hein, parce que je voudrais juste, je pense que, à mon humble avis, il faut que, parce que nous sommes en train de constater ici à Lubumbashi où nous sommes, il y a de jeunes gens qui sont, je pense que, qui sont presque vulnérables sur le plan de l'état physique, hein. Vous les trouvez là, ils sont vraiment dépourvus de tout, ils sont abandonnés à leur triste sort et à chaque jour, ils doivent se mettre peut-être au bord de la route pour demander quelque chose. C'est pourquoi je dis qu'il fallait que notre pays mette sur pied une politique adéquate. Comment aider ces gens, comment ils peuvent assurer leur survie et comment donc assurer leur paix quotidien au jour le jour. Il en est de même aussi pour les personnes de troisième âge que nous voyons qui n'ont pas des gens pour subvenir à leurs besoins. On les voit tout au long de la route en train de demander à gauche, à droite. Moi, je pense qu'il faut un encadrement. C'est pourquoi je voudrais dire tout doit passer par la sensibilisation. On doit sensibiliser ces gens et aussi également assurer la promotion et aussi faire les plaidoyers devant nos autorités qui doivent vraiment assurer leur protection. Et je suis en train de me poser une question, parce que je vois que le ministère des Affaires sociales est presque aux abonnés absents dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que nous sommes en train de voir que beaucoup de ceux qui sont vraiment dans l'état de vulnérabilité, leur problème est presque jeté dans la poubelle des oubliettes et ils ne se retrouvent pas. Nous sommes en train d'enregistrer un grand nombre de gens qui se retrouvent sur des routes, mais qui ne sont pas aidés. Je pense qu'on doit quand même canaliser, c'est-à-dire mettre peut-être un budget aussi conséquent pour cette catégorie de gens qui sont presque marginalisés. Il y en a de même pour certains qui ne trouvent pas le temps d'aller à l'école.
Oui, Jérémy. Merci Jérémy. Finalement, la question n'arrive toujours pas. Vous avez beaucoup à dire par rapport à ça. Merci Jérémy d'avoir appelé de Lubumbashi. Glody Bwanganga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Glody.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Glody. Quelle est votre question par rapport à ce sujet sur comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC?
Oui, oui. La question est vraiment très facile, mais ce que je peux dire à l'invité, il n'arrive pas vraiment à expliciter bien les sujets pour la meilleure compréhension. Alors, j'ai certaines questions pour poser à l'invité.
Allez-y.
Il y a la différence entre le ministre des Affaires sociales et les ONG. Est-ce qu'il y a une différence de ça? Et la deuxième des choses, elle, en tant que responsable de cette ONG-là, quels sont les nombres statistiques qu'ils ont fait, autant, par exemple, autant de personnes qui sont vulnérables dans notre pays? Quels sont les nombres des statistiques? Et il peut estimer ça à combien? Ça, c'est d'abord des questions que j'ai voulu poser. Et ma contribution, c'est juste pour dire certaines questions, parce que aujourd'hui, nous traversons quand même des problèmes qui sont très sérieux. Alors, nous devons donner les pistes de solutions pour que notre pays puisse plus avoir des problèmes dans ce secteur-là. Alors, j'aimerais demander à l'invité qu'il puisse bien d'abord expliquer les sujets, parce que les sujets vraiment n'est pas vraiment compréhensible. Elle explique bien les sujets, comme ça, elle propose aussi les pistes de solutions pour que notre pays puisse plus avoir de pareils problèmes, parce que ce sont des problèmes qui sont très sérieux et qui dérangent même l'environnement. Par exemple, vous pouvez être là en cours de route en train de promener. Donc, à gauche, on vous demande, à droite, on vous demande, alors on ne sait pas comment faire. Donc, c'est un peu quand même mal. Alors, elle puisse donner pour moi les pistes de solutions favorables pour qu'on puisse plus avoir ces problèmes. Merci.
Voilà, Glody Bonganga, restez branchés, vous aurez à toute réponse à vos questions, mais sachez déjà qu'il ne s'agit pas d'une ONG. Hein,
voilà.
Donc, voilà, c'est pas une ONG. J'imagine que nous avons pris en cours de l'émission, mais vous aurez des réponses à toutes vos préoccupations. Glody Bonganga, merci d'avoir appelé du banc de nos villes. Marcel Boto, vous êtes à Kananga. Bonjour, Marcel.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Marcel, quelle est votre question?
Oui, moi, parce qu'à Kananga, il y a presque beaucoup d'ONG dans chaque avenue maintenant, après les mouvements de Camerounais sacrifiés. Tout le monde parle toujours de soutien, des personnes vulnérables, mais on ne sent pas. On ne sent pas, parce que pourquoi? Parce que les bénéficiaires, qui sont les personnes vulnérables là, ne bénéficient pas. Donc, vous voyez, l'ONG va demander à la MONUSCO. Moi, je voulais appuyer telle catégorie de gens en ville. La MONUSCO donne le financement, mais les gens qui vont donner aux gens-là n'exécutent pas. Ils vont classer leurs propres familles, les membres de famille, les gens qui n'ont même pas besoin même de trouver les dons qu'on va donner par les ONG. Pourquoi je voulais demander à Adam, est-ce que réellement les structures à Kananga. Ça, c'est la première question. Et de parce que nous suivons toujours, récemment au sud de Kivu, c'est le chef de l'État qui est parti prendre l'enveloppe quand il y a eu mort d'homme. De l'autre côté, quand il y a eu les gens de Kananga, SNC, c'est toujours le chef de l'État. On n'a pas suivi leur structure là, en train de s'appuyer derrière tout des catastrophes qui se passent là. Ils voulaient aussi avoir cette différence de sa structure et d'autres instituts de l'État, surtout le ministère des Affaires sociales et du développement rural.
Merci Marcel Boto depuis Kananga. Nous allons accorder la parole à Dieudonné. On va nous indiquer qui nous appelle d'où. Dieudonné, vous êtes en ligne. Bonjour Dieudonné. Non, il n'est pas encore en ligne, on va le retrouver plus tard. Voilà, madame, avant de répondre à Jérémy, qui a appelé de Lubumbashi, également à Marcel Boto, qu'on vient de suivre tout à l'heure depuis Kananga, j'aimerais d'abord que vous éclaircissiez pour Glody Bonganga, qui veut comprendre c'est quoi le Fonds National de Promotion et de Services Sociaux, les SINONG, est-ce que c'est rattaché à quel ministère?
Ok, je vais le dire rapidement. Le Fonds National de Promotion et de Services Sociaux, FNPSS en sigle,
oui.
J'ai dit tout à l'heure, c'est la seule entreprise, établissement public, donc entreprise de l'État, qui a comme mission d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale. L'objectif, c'est de mobiliser les fonds.
Et les fonds dépendent du ministère
Ils dépendent du ministère des Affaires sociales.
Voilà.
C'est le ministre des Affaires sociales qui en assure la tutelle. Alors, ce fonds doit mobiliser des financements pour d'abord garantir, assurer le relèvement social des groupes vulnérables et les personnes très pauvres, qui sont souvent des personnes nécessiteuses. Deuxième aspect, les fonds collectés doivent nous permettre d'organiser les services sociaux de base de manière que les plus vulnérables y accèdent. Parce que le relèvement social ne pourrait être possible que s'il y a cet accès aux services sociaux de base. Et j'ai parlé de l'exemple de la santé, où pour avoir la santé, en principe, on devait avoir une couverture à travers ses propres revenus. mais la majorité dans ce pays n'a pas de revenus. Oui. Par conséquent, on recourt à la charité et à la collecte dans des communautés pour subvenir aux besoins. Ce qui est plus grave aujourd'hui, c'est que même pour manger chaque jour, il faut que ça soit une mobilisation dans le quartier ou l'avenue. Et c'est ce qui nous amène à des actes de délinquance, même au niveau des enfants. Il y a des enfants qui volent le petit pain au marché parce qu'il n'a pas mangé le matin. Et donc, la précarité a amené d'autres formes d'antivaleurs dans ce pays et d'autres formes de criminalité pour la survie. Et le Fonds national est comme une réponse à cela, c'est ça le sens du plan stratégique et oui. financier adopté déjà depuis 2012 par le gouvernement.
Et un plan, vous avez dit qu'il est basé sur 5 axes. Vous
5 axes stratégiques et je vous ai dit que nous sommes déjà en action et je vous ai même dit 2 projets sociaux que nous sommes en train de préparer et que nous allons commencer bientôt à exécuter avec la Banque africaine de développement. Et avec le 2e, là, sur l'emploi des jeunes, il y aura aussi le BIT. Alors, je reviens... Les questions de Jérémy, Glody et Marcel me poussent à leur parler de ce que j'avais prévu dans la deuxième partie de cette émission.
Oui.
C'est que si nous devons aller vers les solutions, je vous ai dit que nous, au niveau du fonds, nous avons fait des propositions auprès du chef de l'État qui lui sont déjà parvenues. Et nous sommes sûrs, convaincus que très bientôt nous aurons sa réaction parce qu'il y a déjà ses collaborateurs qui sont sur ces dossiers. Voici ces 2 propositions. La première proposition, nous parlons du rétablissement de l'autorité de l'État dans le domaine social et humanitaire et dans la gestion au quotidien de la vie sociale de notre population. Ce rétablissement-là a comme point d'ancrage l'engagement personnel du chef de l'État, qui doit être comme un engagement politique pour améliorer le vécu quotidien de la population et assurer son relèvement économique et sa protection sociale. Je l'ai dit tantôt, cet engagement, nous l'avons déjà et ça ressort du discours d'investiture du chef de l'État.
Oui.
Si les gens n'ont pas bien lu ce discours, ils peuvent le relire. Son engagement personnel est dit là-dedans. Alors, de cet engagement personnel, nous maintenant, nous avons orienté nos propositions à 2 niveaux. D'abord, le niveau politique et puis le niveau technique et opérationnel. En ce qui concerne les niveaux politiques, vous allez d'ailleurs, en parlant à Marcel Bohoto, il doit savoir s'il y a foisonnement d'ONG aujourd'hui. Ce sont les signes de l'absence de l'État. Parce qu'en réalité, le social, il est d'abord en priorité fait par l'État. Les ONG ne viennent que comme des bras. Ils ne peuvent jamais venir en principal. Donc, avec ce que nous sommes en train de faire, tout ça, c'est prévu d'organiser tout ça parce que l'État doit revenir sur son rôle grégalien.
La restauration de l'autorité de l'État.
La restauration de l'autorité de l'État. C'est l'État d'abord et c'est l'État qui organise et qui coordonne toutes les initiatives sociales pour la population. Alors, maintenant, nous avons proposé le volet politique au niveau du ministère des Affaires sociales lui-même. Un des auditeurs a dit, c'est le ministère le plus oublié, le plus négligé même, si je peux le dire, parce que dans le budget de l'État, il n'a même pas 1%. Hein. C'est 0,90 quelque chose. Hein. Et décaissé à moins de 20%, la reddition de compte est en train de passer à notre ministère ces jours-ci. Ils sont en train de voir que la faible capacité, même dans les décaissements de fonds que le budget de l'État, que le Parlement
parce
a même alloué.
Parce que lorsqu'il y a des catastrophes à travers le pays, bien souvent, on ne voit pas l'action du ministère des Affaires sociales.
Oui, mais parce qu'il faut avoir les moyens et les notes pour que le ministère du budget et finance décaisse ne fût-ce que ce qui est sur nos lignes budgétaires. Ça peut arriver après même plusieurs mois de la catastrophe. Hein. Et donc, ça, c'est le premier problème. Et nous avons dit, après analyse, qu'il faut repositionner ce ministère dans le gouvernement. Il faut lui donner la place de la vice-primature. Il faut que les questions de gestion de la population rentrent chez le Premier ministre. Alors, quand on a un vice-premier ministre, c'est l'adjoint du Premier ministre, non, n'est-ce pas? Alors là, ça prendra la même position que le ministère de l'Intérieur. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de la population, mais dans le volet protection et sécurité. C'est le ministère des Affaires sociales qui s'occupe de la population dans le volet protection sociale et rétablissement dans la vie au quotidien.
Madame Alice, donc, on revient à vous. Hein. On va accorder la parole à d'autres auditeurs qui sont à l'île.
Et ajouter le budget. Hein. Le budget, on doit aller même à plus de 10%, même 20%, pourquoi pas. C'est la population.
Voilà, c'est bien dit. D'autres auditeurs en ligne, il y a Dieudonné qui nous appelle de Haru et Kachai qui est à Kananga, Georges qui est à Mayagi. On y va avec Dieudonné depuis Haru. Dieudonné, vous nous appelez de Haru. Bonjour.
Oui, c'est bien de donner Chomba par le territoire d'Haru, quasiment de Kandoui. D'abord, premièrement, je tiens à remercier notre invité par rapport à tout ce que vous avez dit. J'avais voulu, avant que je pose la question, d'abord, ici chez nous, à territoire d'Arou, précisément dans le secteur d'Endor. Nous avons connu un totalisme qu'on a appelé PAM, même Oxfam, qui ont vraiment intervenu pour subvenir aux besoins de la population. Alors, sur ce, nous n'avons vu aucun effort de gouvernement et on se demande quelles sont vraiment d'autres stratégies à prendre pour que cette initiative dans Malapan les réussisse dans tous les milieux, dans tous les coins derrière. Parce que nous voyons aujourd'hui que les Congolais sont très étendus, vraiment immenses, et pour laquelle même l'effort de gouvernement n'atteint pas certains coins. Alors, c'est ça ce qui nous préoccupe tant et nous concluons seulement que le gouvernement congolais reste d'abord démissionnaire de beaucoup de ses services à rendre à la population. Je vous remercie.
Merci Dieudonné depuis Arua. Kananga Kachay est en ligne. Bonjour Kachay.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à madame l'invitée du jour.
On vous écoute. Quelle est votre question par rapport à ces sujets? Comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous appelle à partir de Kanyukata, où je suis, à une distance près de la ville de Kananga. Monsieur le journaliste, bon, d'abord, comment prendre en charge les personnes vulnérables? Je ne sais pas, dans l'imaginaire de l'État, s'il connaît l'existence de ces personnes vulnérables-là, parce que nous ne pouvons pas toujours parler des personnes vulnérables dès lors que ces personnes-là ne sont pas prises en charge par l'État lui-même, qu'il y a institué beaucoup de ministères qui s'occupent de ces personnes-là. Nous avons des vieillards, nous avons des orphelins. Je ne sais pas si les frères abandonnés par leurs parents peuvent être aussi classés parmi les personnes vivantes. Les orphelins, je ne sais pas s'ils sont personnes... Ce sont des personnes qui ne savent pas prendre elles-mêmes leurs propres responsabilités. Alors, je voulais demander à ma... Bon, demander à l'État de faire un contrôle sur terrain pour connaître effectivement l'existence des personnes vulnérables, ou soit il faut commencer à amorcer des actions pour aider les personnes pendant qu'on ne connaît pas là où ces personnes-là restent. Parce que parfois, ces personnes sont dissipées. Et les autres meurent, surtout les personnes du troisième âge, ces gens-là meurent à leur triste sort, abandonnés, même par leurs propres membres de la famille qui ne s'occupent pas d'elles. Alors c'est pourquoi je voulais demander à madame, il faudrait d'abord faire la liste de toutes ces personnes-là, ou soit vous commencez à amorcer des actions pouvant être menées à encourager la vie sociale de ces personnes-là. Deuxièmement, c'est par rapport au secteur de la santé. Messieurs les journalistes, le secteur de la santé, vraiment, je ne sais pas si ces personnes-là, lorsqu'elles se présentent au centre de santé pour des soins appropriés, elles sont prises en charge. On leur demande l'argent, des fiches, consultations et consorts, mais on les appelle bien personnes vulnérables. Ils vont trouver l'argent où à payer. C'est ainsi que je voulais demander. Ici à Kananga, au Kasaï central, à Kanyoka où je vous appelle, je connais un professeur d'université, professeur Nsabwa Chabukole. Il avait initié quelques actions qu'il avait nommées les actions sociales en faveur des personnes vulnérables. Des cotisations se faisaient de porte à porte pour pouvoir nourrir ces personnes-là. Mais les gens qui étaient responsabilisés des récoltes des fonds, messieurs les journalistes, avaient tout volé et ils sont partis jusqu'alors à une destination inconnue. Et le professeur s'est découragé, il ne mène plus encore les actions. Bon, il a laissé aussi comme ça. Bon, c'est pourquoi je voulais demander, même quand il y a des personnes de bonne volonté, ceux qui sont dans la société continuent toujours à détruire ce qui est construit, même à pied d'œuvre. C'est pourquoi je voulais demander à madame comment encourager aussi les gens qui ont la bonne volonté, comme les professeurs Nsabo que j'ai cités là, à pouvoir toujours continuer à aider en attendant l'aide normale de l'État congolais à l'endroit des personnes négligées. Merci.
Voilà, merci beaucoup Kachay de nous avoir appelé depuis Kanyoka. Plus précisément, vous êtes à Kanyoka, vous avez dit à une dizaine de kilomètres de Kananga. Merci. Georges, vous êtes à Magui. Bonjour Georges.
Bon, je ne suis pas Georges, je suis Gérard Elinga à Paradis.
D'accord, vous écoute Gérard.
Oui, je suis à Paradis, précisément dans la province du Haut-Ouélé, hein.
C'est bon, on vous écoute. Quelle est votre question, Georges, plutôt Gérard, par rapport à ces sujets, comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC? Oui.
mes premières préoccupations sont bien ramassées par les prédécesseurs.
Oui.
Est-ce que l'invité peut nous dire la cause qui fait que le ministère des Affaires sociales aujourd'hui ne soit pas normalement représenté sur toute l'étendue du pays? Parce qu'ici, à Faradj, nous ne voyons pas ces services-là ici. Et pourquoi le plus souvent, le pays est en train seulement de laisser la charge de ces personnes vivant avec handicap aux ONG internationales? Donc, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une faiblesse de la part du gouvernement ou comment elle peut justifier ça?
Merci Gérard depuis Faradje Moana Kousala. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous nous appelez de Kikwit. Bonjour Moana Kousala.
Oui, bonjour. C'est Moana Kousala Fortuna.
Ah, Moana Kousala, c'est bon. Allez, on vous écoute depuis Kikwit. Quelle est votre question?
Je voulais savoir une chose. Est-ce que réellement nous avons des hommes qui ont la volonté d'aider les personnes vulnérables? Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays actuellement? Tous les problèmes tournent autour de la politique. On n'a pas financé, on n'a pas fait ceci. Je prends l'exemple de Kamona Sabou qui vient de passer dernièrement. On finance, les matériels arrivent sur place, au lieu de donner des personnes à qui les droits, non, cette histoire-là se transforme pour des boutiques et donner aux gens leurs connaissances et tout et tout. Est-ce que faut-il encore rester avec le même système ou il faut prendre les stratégies? Comment il faudra s'arranger d'abord interne et dans leur projet, voire même le gouvernement? Quelles sont les méthodes qu'ils doivent prendre? Je ne vais pas encore trop loin. Le président honoraire Joseph Kabila a financé ce ministère-là, je dis bien, à 20%. Et quelles sont les recettes? Quelles sont les vraies valeurs, l'exploitation qu'ils ont utilisé cet argent-là pour l'intérêt du peuple congolais? Moi, je pense que c'est d'abord, il n'y a pas la volonté du côté dirigeant. Parce que tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'ils sont en train de faire, des projets de financement qui viennent par-ci, par-là, tourne dans leur poche. On n'utilise pas ça à 100%. Il n'y a pas de contrôle dans tout ce qui se passe dans notre pays. Le tout doit toujours rester comme ça. Rien ne change. Je ne comprends plus rien. Maintenant, actuellement, le tout tourne autour de Félix. Le président Félix. Mais non. Le président Félix ne va pas contrôler tout ce qui va se passer d'ici pour aller, par exemple, à Kassai. Le président ne va pas contrôler d'ici qui doit aller à Bas-Congo et tout parti par là. C'est d'abord la conscience des dirigeants. Moi, je pense qu'on doit d'abord commencer à balayer tout ce monde-là, changer les choses. Et je pense que ce ministère-là pourrait changer et les choses peuvent changer dans notre pays.
Voilà, merci à Moana Kousala de nous avoir appelé de Kikwit. On sera à Lubumbashi et là on va accorder la parole à l'honorable Mwamba. Honorable Mwamba, bonjour.
Moi c'est Joseph, je suis à Kolwezi, ce n'est pas encore. Vous appelez encore à Lubumbashi, non?
Bah, ça c'est Joseph à Kolwezi. Bon, tant mieux. Allez-y, Joseph, puisque vous êtes déjà en ligne. On vous écoute, Joseph. Quelle est votre question? Mais Joseph, vous voulez bien... Joseph, s'il vous plaît, vous voulez bien fermer la une radio à côté de vous, ou vous éloigner de votre radio parce qu'il y a un retour désagréable à l'antenne, hein? Je pense que c'est bon, Joseph. Alors, allez-y, on vous écoute, Joseph, depuis que l'on vous écoute.
Pour les gens mal vulnérables, en tout cas, ici, nous déplorons, parce que vous savez bien, la ville de Kolwezi, c'est une province riche. Amis. Donc, nous démarrons d'une manière catastrophique. Nous y avons plein de maisons qui prennent en charge les orphelinats. Alors, je ne sais pas si les gouvernements doivent encore s'en charger. Combien de sensibilisations peut se trouver encore avec les gens vulnérables? Parce que nous avons maison Kouetou, nous avons beaucoup de maisons ici. Il faut qu'il déplore, qu'il manque de l'eau, qu'il manque à manger, qu'il manque à quoi. D'abord, les gouvernements devraient faire d'abord la sensibilisation. Connaître le nombre de gens qui sont mal vulnérables. Et c'est alors malgré qu'ils vont maintenant envoyer des gens sur les champs, sur le lieu pour contribuer maintenant à leurs responsabilités. Alors, je puisse demander à madame qui est là comme madame l'invitée, je ne sais pas. Ils ont déjà fait la sensibilisation, ils ont combien de nombres? Et par après ce nombre-là, il pourra en faire après combien de temps?
Oui.
Si c'est ce gouvernement d'aujourd'hui qui arrive à la place, c'est elle maintenant qui veut s'en charger, c'est mieux, et c'est beaucoup. Et c'est à chanter même. Mais si il y a encore que ce sont encore des gens qui ont encore travaillé dans le gouvernement, qui veulent encore s'en charger, je ne pense pas que ça n'ira pas, parce que leur argent, ils veulent toujours s'approcher, ils veulent toujours s'enrichir d'elles-mêmes.
Voilà, merci. Alors, merci Joseph. La ligne n'est pas très très bonne, mais on a compris l'essentiel de votre question. Madame Alice Mirimo va réagir tout à l'heure. Merci de nous avoir appelé de Kolwezi. Cette fois-ci, j'espère que ça va bien marcher pour l'honorable Mwamba qui nous appelle depuis Lubumbashi. Honorable Mwamba, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour me donner la parole.
Honorable, s'il vous plaît, il y a un problème aussi avec votre ligne. Vous voulez bien arrêter carrément votre radio, comme ça vous allez parler avec votre téléphone et puis ça sera sans retour à l'antenne. J'espère que c'est déjà fait.
Merci beaucoup. Oui. Je vous remercie grandement de tous les travaux que vous êtes en train de faire pour notre pays. Mais ce que moi je demande à notre intervenant, il y a déjà des affaires sociales, il y a des sœurs canadiennes qui ont fait beaucoup d'existence dans notre pays. Comme d'Amazon, nous avons les frères, les sœurs de Christ et Roi qui sont à Kimwens. Ne serait-il pas possible de les voir pour aider les vulnérables qui sont d'Amazon, qui n'ont rien, qui n'ont pas une personne? Si vous arrivez à Kanyama, vraiment vous verrez que même Adam et Ève n'a jamais touché cette zone depuis création. J'aime que votre émission et cette mère voient les sœurs de Christ Roi. Il va lui dire tout ce qu'il faut faire en Andajika, à Benitibouyambouchimaï et à Kanyama. Ils ont beaucoup aidé les gens à travailler depuis qu'ils ont arrêté. Et toutes les sœurs des Canadiens sont partis au Canada. Il n'y a personne qui aide. Est-ce qu'il ne serait pas possible de renouveler ça comme le président a mis ça dans son plan d'action? S'il vous plaît. C'est ce que je voudrais vous dire pour que vous mettiez aussi l'antenne des radios au Kapi à Kanyama. Je vous remercie.
Merci, honorable Mwamba de Lubumbashi. Madame Alice Mirimo, vous avez suivi, vraiment, on a fait le tour. Vous avez suivi, on a fait presque le tour. Le problème reste le même, hein. C'est-à-dire que l'engagement de l'État, parce que quand il y a des ONG qui arrêtent de faire des activités, souvent la population est à boire. Mais vous l'avez dit, il faut d'abord l'engagement de l'État.
En fait, j'ai toujours dit que ce que nous avons comme message demande même une série d'émissions
pour
communiquer.
Exactement.
Mais je vais faire un effort de me schématiser. Toutes les questions convergent. Hein. C'est, ça suit la même chose. C'est où est le ministère des Affaires sociales? Pourquoi le fonds ne fait rien? Qu'on le fera quand? Voilà, je vais schématiser ça. Tout part d'une problématique. La problématique, c'est que chez nous, il y a plus de vulnérables que de personnes qui vivent par leurs propres revenus.
Quelqu'un a demandé si vous avez répertorié, est-ce que vous avez une idée sur l'ensemble de personnes vulnérables à travers le pays?
L'idée est globale, parce que nous partons des statistiques qui nous sont données par la Caisse de Sécurité sociale.
Oui.
C'est eux qui documentent les nombres de personnes qui ont du travail. Parce que le travail, là, c'est le secteur privé. Et par rapport au secteur public, nous avons le ministère de la fonction publique. Quand les deux statistiques sont mises ensemble, on sait qu'il y a moins de 10% de Congolais en âge actif qui travaillent. Je vous ai dit tantôt que la CENI nous a aidé à voir le nombre de personnes de Congolais en âge actif. On est à plus de 40 millions. Et par là, si moins de 10% n'ont pas du travail, c'est que le reste se constitue les personnes vulnérables. Donc, dans notre pays, plus de 90% des Congolais sont vulnérables. Ça va? Et la vulnérabilité des personnes en âge actif entraîne la vulnérabilité de toute la population. Les personnes en âge actif, c'est à partir de 18 ans, ceux qui ont la majorité et plus. Alors, pourquoi ça entraîne la vulnérabilité des autres? Parce que ce sont ces personnes qui se marient, ce sont ces personnes qui doivent avoir de l'emploi. Et donc, les naissances n'ont pas arrêté. En fait, la vie continue au normal. Alors, nous, au Congo, au lieu que ça continue vers le progrès de la population ou le développement, on va en régression parce que c'est la population qui devait agir et amener le développement à la production. Alors, deuxième schéma que je vous dis, c'est que il faut une volonté politique. La volonté politique, c'est à deux niveaux. Au niveau du positionnement même du ministère. Je réponds à celui qui a dit qu'il ne veut pas le ministère des Affaires sociales. Non, le ministère des Affaires sociales est partout, jusque dans nos chefferies. Tous les ministères de ce pays sont organisés, ils sont jusque dans nos chefferies. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas visibles parce qu'ils n'ont pas des moyens. C'est un ministère oublié sur le plan de financement. On a toujours dit que c'est un ministère budgétivore. Et j'ai toujours demandé aux amis des finances et budget quel est le sens qu'ils donnent au mot budgétivore. Ils disent que c'est un ministère qui ne produit rien. Mais c'est parce qu'ils ont positionné ce ministère juste dans l'assistance sociale. Et la réforme qui est au Fonds national, c'est pour positionner ce ministère non dans l'assistance sociale, mais un ministère qui ramène la population vulnérable dans le monde de population active, de population productive, en les sortant de la vulnérabilité. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour sortir ce peuple de la vulnérabilité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on arrête avec la main tendue, n'est-ce pas? Ça signifie qu'on va vers la responsabilité de donner à ces peuples la possibilité d'agir et de produire et non d'attendre. Parce qu'ici, je vois toujours c'est l'attentisme. On attend que la DG aille là-bas, dans ce village, pour donner l'argent. On attend l'argent. Non, ce n'est pas ça. On a inversé la démarche. La démarche, c'est d'identifier le vulnérable, de savoir qu'est-ce qui le met dans la vulnérabilité et identifier les services sociaux dont il a besoin pour sortir de cette précarité et être reversé maintenant dans le monde de production.
Et vous pensez que c'est possible avec le 100 jours de révolution sociale que vous proposez?
C'est possible de commencer. Parce que les 100 jours de révolution sociale, j'ai dit qu'on a donné 4 projets en priorité. Oui. Le premier, c'est le plan social provincial. On doit arrêter de naviguer à vue. On doit, quand on est dans une province, c'est vrai, il y a des plans de développement, c'est global. Mais les plans provinciaux pour le social, c'est la partie, la besoin sociaux de base qui est dans leur plan de développement. On en fait un autre plan qui sert de tableau de bord pour qu'on ne tâtonne plus, qu'on sache déjà sur 5 ans, il y a des priorités sociales à la santé, éducation et autres par rapport à telle province et qui prend en compte toute la province jusqu'au village. Deuxième priorité pour nous, c'est ce comité local de relèvement social. Nous devons avoir une planification stratégique en sachant que les entités à la base sont engagées à s'en occuper. C'est eux qui doivent s'occuper de la population. La plupart ont renoncé. Écoutez, un exemple clair, non? Vous connaissez votre chef de quartier ou votre chef d'avenue? Beaucoup ne le connaissent pas, hein? Mais nous tous, on connaît les chemins de Palais de la Nation. C'est paradoxal. On devait commencer par l'avenue. On devait commencer par le quartier. Et l'autre projet, c'est la cartographie. C'est ce projet d'organisation du cycle de relèvement social à travers la carte de promotion sociale selon la cartographie de la vulnérabilité sociale. Vous pouvez vous imaginer que cet outil important de la cartographie de la vulnérabilité sociale, le pays n'en a pas. Et ça oriente qui? Parce que même les bailleurs qui ont de l'argent pour ce pays, c'est eux qui définissent les besoins maintenant. C'est eux qui définissent la vulnérabilité où ils doivent aller. C'est pas normal. Le pays doit avoir une cartographie du pays sur la vulnérabilité sociale. Ça oriente tout le monde. Et même stratégiquement, tous les bailleurs pourront mobiliser beaucoup d'argent parce qu'ils sont déjà orientés par l'État. Et ça fait partie des projets prioritaires que nous avons proposés et qui peuvent commencer une révolution sociale dans le 100 jours. Et nous y croyons pas, c'est possible. Il suffit d'y mettre un peu de moyens. Et les moyens existent. Nous avons dit, nous commençons par les lignes budgétaires qui existent. Avant de demander 20%, nous commençons d'abord avec les 0,90% qui existent. Si ces 0,90% sont décaissés à 100%, nous allons commencer et la population va suivre. Pourquoi je le dis? Parce que pour moi, la présence des ONG exprime juste une volonté du changement. C'est-à-dire, les personnes qui vivent dans la communauté ne sont pas d'accord avec le problème qu'ils constatent et s'organisent en ONG. Moi, je trouve que ce sont des forces stratégiques qui seront mises à profit pour qu'on commence cette révolution sociale. C'est important. Et je vais vers la fin peut-être en vous disant que ce que je commençais à expliquer, j'espère que ça fera l'objet finalement de toute une émission, c'était de vous dire que si stratégiquement sur le plan politique, profitant de cet engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi, nous pouvons aller vers le 3 axes, c'est-à-dire la définition de politique sociale et humanitaire. Il n'y en a pas. Nous devons aller vers la mobilisation des ressources internes et externes. Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas c'est où, on ne sait pas les localiser ni les capter. Et aller vers la mise en œuvre des actions sociales et humanitaires directement avec la population. Et c'est là qui fait partie de projets qui sont dans, dans notre plan stratégique et dans notre plan opérationnel. Et maintenant, je propose le Fonds national comme cet instrument financier stratégique sur lequel une autorité, le chef d'État peut compter et le gouvernement peut compter pour booster leur intervention par rapport à ces trois axes. C'est vrai que le mal est très profond, la pauvreté est devenue très profonde, mais nous devons commencer.
Mais quelqu'un pose la question, est-ce que vous avez des bureaux à travers tout le pays?
Oui, nous avons des bureaux à travers tout le pays. À Kananga, si vous approchez chaque fois les divisions provinciales des affaires sociales, ils vont vous guider vers nos bureaux. Nous avons des bureaux dans tous les pays. Nous sommes en train de les étendre dans les nouvelles provinces. Mais au moins, ces anciennes provinces, nous avons des bureaux. Et donc, vous voyez que l'autre stratégie, pourquoi le ministère des Affaires sociales, à l'époque, a proposé la redynamisation du Fonds national de pension et de services sociaux pour répondre à sa responsabilité de cette prise en charge de la population? Parce que le Fonds national a la position d'abord d'établissement public. Donc, il n'est pas ONG, il n'est pas un parti politique, il n'est pas quoi. C'est un service de l'État qui doit aider le pays à assurer le bien-être de la population. Voilà pourquoi redynamiser ce fonds permettra à l'État de se rapprocher davantage de la population. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le ministère des Affaires sociales, c'est le visage humain du gouvernement. Parce que je vous ai dit qu'il y en a deux là. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est plus dans la sécurité et la protection. Et le ministère des Affaires sociales, c'est lui qui vient pour la prise en charge au quotidien. Et la stratégie aujourd'hui, c'est qu'on amène chacun à s'auto-prendre en charge. On ne veut plus cette histoire d'attendre. Allons-y en action et non à attendre. Tout ce que nous avons présenté comme stratégie, c'est de nous mettre la main dans la main dans la solidarité pour que cette vision se réalise.
Madame Alice Mirimo, on va s'arrêter par là. On espère, d'ailleurs, on va rester à suivre comment ça va se passer avec ces 100 jours de plan d'action sociale. Vous parlez d'une révolution sociale. Ouais. Il suffit qu'il y ait de la volonté politique.
Et il y en a déjà.
Il y en a déjà, c'est bien dit.
Nous attendons juste les moyens et que nous commencions le déclic.
Voilà, Madame Alice Mirimo, directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux, vous étiez notre invitée pour parler de comment réussir l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en RDC. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup, Marcel.